Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Le début d'accord sur le nucléaire iranien augmente les craintes des pays sunnites de la région ainsi que d'Israël et fait monter la tension alors que l'Arabie Saoudite semble reprendre le leadership arabe. La rivalité entre Téhéran et Riyad s'exacerbe. Entre ce qui marque le retour de l'Iran et le réveil de l'Arabie Saoudite, les cartes sont en pleine redistribution et le casse-tête pour l'Occident ne semble pas prêt de prendre fin. Nos invités, Azadeh Khian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS, bonjour.
Bonjour.
François Géré, président fondateur de l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique, bonjour.
Bonjour.
David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'IFAS et chercheur associé à l'Institut prospective et sécurité en Europe et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, bonjour.
Bonjour.
Est-il trop tôt pour célébrer l'accord intervenu le 2 avril dernier à Lausanne sur le nucléaire iranien? François Géré.
Il n'y a pour le moment pas de célébration à faire, si ce n'est à constater que on a signé un document qui est un document très précis, très détaillé, qui bien entendu ne comporte pas, et c'est tout à fait normal, d'annexes techniques, puisque ces annexes vont être discutées dans les jours qui viennent, sont en cours déjà de discussion pour aboutir à un accord final le 30 juin ou le 1er juillet. On n'est pas à un jour près, naturellement. Il y a donc là quelque chose de concret qui, finalement, est équilibré, puisqu'il donne satisfaction au P5 plus 1 sur les quantités d'uranium enrichi qui vont rester en Iran. Il donne satisfaction aux Iraniens, puisque ces quantités énormément réduites de 90% restent sur le territoire national iranien. Il donne satisfaction aux Occidentaux avec le renforcement des inspections et un régime particulièrement strict en ce qui concerne toute une série d'installations réparties à travers le pays. L'activité d'enrichissement d'uranium sur le site de Fordo est interrompue dans des conditions telles qu'elle ne pourrait ne pas reprendre, jamais. Le réacteur plutonigène d'Arak, qui avait fait naître beaucoup de préoccupations, change complètement d'architecture et devient donc une composante qui ne pourra pas produire de plutonium utilisable pour des qualités militaires. Et enfin, eh bien, l'Iran a satisfaction sur la levée des sanctions, même si il y a des conditionnalités qui sont présentes dans l'accord et que l'Iran, il faut bien dire, a un peu tendance à regarder de côté en disant dès que le 30 juin on aura finalisé l'accord définitif, toutes les sanctions seront levées d'un seul coup, ce qui est une vision peut-être un petit peu optimiste, mais quand même, sur le principe, il y a une avancée.
Alors, Azadeh Khian, je me tourne vers vous, ce que vient de dire François Géré, document complet, document équilibré. À vous entendre, François Géré, on a presque l'impression que les choses sont déjà presque coulées dans le marbre et qu'il y a peu de choses à faire d'ici au 30 juin, et pourtant, il reste pas mal de choses à faire, Azadeh Khian.
Il reste visiblement encore pas mal de choses à faire, mais à commencer par, pour les Iraniens, c'est la question des sanctions qui pose énormément de problèmes. On a vu hier Ayatollah Khamenei, le guide, qui a dit qu'il a soutenu les négociateurs, il continue à les soutenir, hein, mais visiblement, dans le document, pour les Américains, il s'agit de la suspension des sanctions. Pour l'Iran, c'est la levée complète des sanctions. Et donc, c'est là-dessus, je pense en grande partie, que les négociations vont porter d'ici fin juin. Mais il faut dire qu'effectivement, par rapport à 2003, où, souvenez-vous, les Iraniens avaient accepté de suspendre l'enrichissement de l'uranium et les Américains de Bush à l'époque demandait aux Iraniens de ne pas enrichir l'uranium, de ne pas avoir des centrifugeuses, etc. Aujourd'hui, on peut dire effectivement que les Iraniens ont obtenu une bonne partie de leurs revendications. D'ailleurs, il y a des centrales nucléaires qui seront modernisées par les 5 plus 1, etc. Donc, il y a ça. Il y a aussi, bien sûr, la communauté internationale, en tout cas le Conseil de sécurité des Nations Unies qui serait garant de cet accord. À cela s'ajoute le fait que l'Iran a accepté de signer aussi le protocole additionnel, ce qui est absolument crucial et important. Donc, dans l'ensemble, Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les deux parties sont gagnantes telles que les accords ont été signés, si ce n'est que la question des sanctions qui pèsent effectivement sur l'échiquier, en tout cas politique et économique iranien, et qui reste à résoudre. Visiblement, le terme utilisé s'apprête à des interprétations différentes de part et d'autre.
Alors, ce qu'on peut souligner globalement, c'est donc, et vous l'avez dit, l'un et l'autre, c'est un succès pour ces accords de Lausanne. Alors, François Nicolaud, qui travaille beaucoup sur les questions nucléaires, je le cite parce que il s'étonne en particulier du fait qu'il ne soit pas fait mention, en tout cas aucune référence dans aucun des textes, quant à une éventuelle ratification par l'Iran du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. François Géré, je me tourne vers vous. Ce traité, il a été signé par Téhéran, mais non ratifié. Et cette ratification, évidemment, scellerait de façon solennelle l'intention iranienne de n'utiliser l'énergie nucléaire qu'à des fins pacifiques. Vous avez un commentaire ?
Je dirais que à partir du moment où l'Iran se met dans une position telle qu'il n'aura pas accès, il n'a pas l'intention d'avoir accès, ce qui est d'ailleurs la version officielle, d'accéder à l'arme nucléaire, en principe, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait une ratification du CTBT. Cela étant dit, on peut retenir cette décision en prenant acte du fait qu'un certain nombre de pays n'ont pas ratifié le traité, à commencer par les États-Unis, et que dans ces conditions, pourquoi, disons, être plus royaliste que le roi,
exiger
et pourquoi ne pas conserver cette carte diplomatique en attendant que la situation se clarifie et que des grandes puissances s'engagent complètement dans cette affaire. Alors, bien entendu, il y a aussi, et ça pèse aussi sur l'ensemble du Moyen-Orient, il y a la question du CTBT pour les différents pays de la région, en particulier, évidemment, Israël, qui officiellement n'a pas d'armes nucléaires, donc qui considère que le CTBT est un traité qui pourrait être signé par Israël, mais je reprends la position officielle israélienne telle qu'elle est exprimée, seulement au moment opportun pour les intérêts nationaux du pays.
Alors, pour ce qui est des réactions, j'en viens à l'Arabie Saoudite, qui a une réaction somme toute assez modérée, de même que du côté israélien, par rapport à l'accord de Lausanne. On voit quand même Riyad affirmer qu'elle entendrait prétendre au même droit que l'Iran, David Rigoulet-Rose. Et la question qui vient après, c'est est-ce qu'on va vers une négociation, une mise à plat de la question nucléaire au Proche et Moyen-Orient?
Pour ce qui est de la réaction saoudienne, c'est intéressant. Il y a eu un petit délai avant la réaction officielle par rapport justement à l'accord signé. On peut pas dire que les Saoudiens soient enthousiastes. De toute façon, par principe, ils étaient plutôt dans une logique d'obstruction quand même. Même si ils savaient très bien que en eux-mêmes, ils n'allaient pas être en mesure d'empêcher la finalisation d'un accord. Ce type de déclaration a été fait à de multiples reprises. Dans le cas où effectivement, l'Iran serait réintégré dans la communauté internationale et qu'un accord sur le nucléaire civil serait validé, ça suppose que d'autres pays, dont l'Arabie Saoudite, puissent également rentrer dans cette logique de la maîtrise du cycle nucléaire civil. Avec évidemment tout le temps la question en suspens, en arrière-plan, de la potentialité de la militarisation à moyen terme. Et là, on retrouve des déclarations ambiguës de Turki Al-Faisal, l'ancien chef des services de renseignement saoudien, qui a laissé clairement entendre que si l'accord n'était pas suffisamment contraignant, donc si l'Iran avait malgré tout la possibilité de parvenir à une militarisation, évidemment, l'Arabie Saoudite se réservait le droit de faire de même. Donc on voit bien que du côté saoudien, cette affaire est quand même stratégiquement un enjeu majeur, qui explique d'ailleurs des positionnements qui paraissent étranges, avec un rapprochement ponctuel avec Israël sur cette question, justement, par rapport au danger nucléaire iranien supposé, etc. Et dans ce cadre-là, c'est pas un hasard s'il y a un certain nombre de théâtres régionaux qui sont de plus en plus enfiévrés. C'est pas dissocié, évidemment, de ce contexte sur les négociations nucléaires.
Vous pensez notamment au Yémen, on y viendra un petit peu plus tard dans l'émission. François Géré, est-ce que le débat sur le nucléaire israélien va pouvoir être éludé longtemps?
Écoutez, ça fait 30 ans que je dis et que j'entends dire qu'il est indispensable d'ouvrir enfin ce dossier. Je crois que tel qu'on est parti, peut-être que dans 30 ans, on continuera à dire sensiblement la même chose. Les positions, d'une manière remarquable, n'ont pas bougé. Les Israéliens n'ont absolument pas l'intention de déclarer la possession de l'arme nucléaire, même si périodiquement ça revient là encore sur le devant de la table. Donc à partir du moment où il n'y a pas de pas en avant de ce côté-là, un certain nombre de pays de la région, notamment l'Égypte, n'ont absolument pas l'intention de s'engager dans des traités contraignants. On a vu l'année dernière l'échec total de la conférence sur l'abolition des armes de destruction massive au Moyen-Orient. On va bientôt avoir une conférence d'examen du traité de non-prolifération
à New York,
qui ne pourra avancer que si il y a des perspectives d'avancer dans ce domaine. Et on se rend compte en réalité que tout est bloqué. De la même façon aussi, dernier dossier qui achève de tout coincer, la négociation sur l'arrêt définitif de la production de matières fissiles à usage militaire. Et là-dessus, vous avez les Indiens, les Pakistanais, un certain nombre de pays qui n'ont absolument pas l'intention de s'engager. Résultat, la conférence du désarmement de Genève n'a rien pu faire depuis maintenant plusieurs mois.
Donc je vous réinvite dans 30 ans pour savoir comment les choses
auront bien évolué. Bien volontiers.
Azadeh, qui a un commentaire sur la question.
Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce commentaire. Néanmoins, je pense que la question d'un Moyen-Orient sans armes atomiques s'oppose effectivement de plus en plus. Mais maintenant que l'Iran, visiblement, à l'issue de cet accord cadre, et peut-être d'ici fin juin, s'engagera définitivement, à renoncer définitivement à l'arme atomique, à ce moment-là, il faut aussi qu'Israël, en tout cas, aussi s'engage de son côté. Ce qui nous emmène vers peut-être le renouveau, peut-être autrement, de la conférence qui s'est vouée à l'échec récemment. Je pense que, de toute façon, ça sera une question qui reste sur la table et il y a d'autres puissances moyen-orientales, comme ça a été dit, comme l'Égypte, mais aussi comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, ou la Turquie, qui peut-être avec des changements de régime en cours d'ailleurs, parce qu'il se passe quand même aussi des choses à l'intérieur de ces pays-là, contesteront davantage l'accès d'Israël à l'arme atomique. Et donc, je pense que c'est en tout cas une question qui reste tout à fait ouverte. D'ailleurs, ce qui permettait aussi aux Iraniens de continuer l'opacité de la nature du programme nucléaire aussi, parce que ça leur permettait d'avoir une certaine assise aussi au sein d'un certain nombre de ces pays au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les choses ont changé, sont en train de changer. Les rapports de force reviennent, mais d'une autre façon, je dirais, grâce aussi à l'intervention de la communauté internationale sur ce dossier-là, mais l'intervention qu'on espère exister aussi pour l'arme nucléaire possédée par Israël.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, les grands défis, pour terminer avec cette question du nucléaire iranien, François Géré, les grands défis d'ici au 30 juin, est-ce qu'on peut les hiérarchiser? C'est aussi des défis de politique intérieure à la fois pour l'Iran et pour les États-Unis.
Oui, alors, évidemment, le problème principal, c'est la position du Congrès à majorité républicaine. Le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat a déposé un projet de loi qui normalement devrait être voté le 14 avril, donnant le droit au Sénat d'examiner pendant 60 jours l'accord tel qu'il vient d'être signé, ou éventuellement l'accord final du 30 juin. Et pendant cette période d'examen de 60 jours, le Congrès peut décider de se prononcer pour ou contre. Inutile de dire que c'est une procédure tout à fait originale, pour ne pas dire exceptionnelle, et que l'administration Obama n'a absolument pas l'intention d'accepter ça. Donc, au cas où il y aurait un vote des républicains au Congrès pour dire « non, nous récusons cet accord, nous ne le considérons pas comme légalement acceptable, valable et légitime », eh bien, le président mettra son veto. S'il y a de nouvelles sanctions, le président Obama mettra également son veto. Et alors là, se posera le problème très, très, très compliqué de la capacité du Congrès à passer par-dessus le veto présidentiel, ce qui, au bas mot, en termes de procédure constitutionnelle, nous amènerait certainement vers la fin du mandat d'Obama, si jamais ça fonctionnait. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Pour Israël, je crois que la position de M. Netanyahou a le mérite au moins de la clarté, c'est-à-dire une opposition totale, radicale et absolue. C'est pas nouveau. Depuis le début, c'est comme ça. Et donc, on ne peut pas attendre de la part du gouvernement israélien tel qu'il est aujourd'hui une modification de sa position. Donc, il va essayer, évidemment, par tous les moyens, avec tous les prétextes. On a vu récemment cette idée assez étrange, il faut bien le dire, selon laquelle l'accord final devrait inclure la reconnaissance d'Israël par l'Iran. C'est étrange parce que il a jamais été question de ça. Ça n'a jamais fait partie du mandat de négociation. Et donc, là encore, l'administration Obama a été obligée de dire, écoutez, on ne parle pas du tout de la même chose, donc ce n'est pas la peine de mettre ça sur la table, ça n'a aucune raison d'y être. Voilà. Alors, il y a éventuellement, effectivement, les Saoudiens qui peuvent traîner des pieds. Mais les Saoudiens, comme disait David Reguleros tout à l'heure, les Saoudiens, s'ils veulent avoir, et ils veulent avoir un programme nucléaire civil, ils ont parfaitement le droit. En signant le TNP, en acceptant les règles d'inspection, pourquoi pas, si ça leur est important. Simplement, la grande différence, c'est qu'entre avoir le droit et la capacité à, c'est pas la même chose. Le programme nucléaire iranien, c'est un programme qui a, grosso modo, qui date de 1975 à peu près. Bon, les Saoudiens partent de quasiment rien. Donc ça ne se construit pas du jour au lendemain.
Azadeh Khan, côté iranien, les grands défis, notamment le soutien que vous évoquiez tout à l'heure des négociateurs par le guide et par le président.
Bien sûr, et à cela s'ajoute bien sûr le puissant gardien de la révolution, les Pastaran aussi, qui ont mis 2 jours avant de féliciter l'équipe des négociateurs iraniens, mais finalement, on voit qu'il y a, à part quelques ultra proches de l'ancien président Ahmadinejad, qui se disent très inquiets de l'accord cadre, les autres acteurs principaux se sont félicités effectivement de la signature de cet accord, même si c'est provisoire, d'autant qu'il garde effectivement le droit, on l'a dit, à l'enrichissement de l'uranium à 3, pratiquement 3, donc suffisamment pour les moyens civils, enfin la technologie civile. En même temps, ce qu'on a entendu dire récemment en Iran, c'est que il est hors de question de laisser les inspecteurs inspecter les installations militaires du pays, parce que l'accord concerne uniquement les installations nucléaires et pas les installations militaires. Ça aussi, c'est un autre problème qui peut se rajouter à des problèmes déjà existants à propos de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des sanctions internationales, suspension ou la levée définitive. Donc il y a cette question-là. Mais de façon générale, il s'agissait pour le moment d'une réussite temporaire du président Rouhani et de surtout M. Javad Zarif. Et ça a soudé de nouveau la population autour du gouvernement. On a vu des scènes de dans beaucoup de villes iraniennes et un espoir qui renaît au sein de la population pour l'amélioration de la condition de vie, la condition économique du pays qui est bien évidemment étroitement liée à la levée des sanctions, à la réintégration de l'Iran au sein de la communauté internationale. Pour ma part, je pense que on parlera tout à l'heure de ce qui se passe au Yémen ou les tensions en tout cas régionales, mais bien évidemment la réintégration du pays profitera, on le sait, à la région. D'ailleurs, Monsieur Erdogan, le président turc, était en Iran récemment. Javad Zarif est parti au Pakistan après avoir fait aussi sa tournée à Oman. Donc, on constate effectivement que l'accord sur le nucléaire aura des conséquences sur la région et évidemment sur la société iranienne qui si elle est de nouveau renforcée, contribuera à la stabilité de la région.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Azadeh Khan, François Géré, David Reguleros dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le retour de l'Iran et le réveil de l'Arabie Saoudite. Nous retrouvons nos invités. Azad Dekian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS. François Géré, président fondateur de l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique. Et David Rigoulero, chercheur rattaché à l'IFAS et chercheur associé à l'Institut prospective et sécurité en Europe et rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. David Rigoulero, on a vu ces dernières années l'Arabie Saoudite être plutôt silencieuse, sans doute en raison de l'état de santé de l'ex-roi Abdallah, gravement malade. Le nouveau roi Salman entend être présent sur la scène régionale. On a vu récemment le début et elle se poursuit de l'offensive saoudienne au Yémen. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette opération ? Est-ce que finalement la question du Yémen n'est pas un pari risqué pour l'Arabie Saoudite, voire un piège ?
Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, on peut se demander quelles ont été les modalités de décision. Manifestement, il y a eu des tensions au sein même de la famille royale qui n'étaient pas unanimes. Je pense à la position du fils de Feu Abdallah, en l'occurrence le prince Moutib, qui dirige la garde nationale. Et apparemment, il n'y avait pas un accord de fond sur la ligne justement décidée par le nouveau roi. Il faut dire qu'il y a eu une phase de flottement au moment de la succession, en janvier. Et puis, se dessine une sorte d'infléchissement, effectivement, de la stratégie saoudienne, avec l'idée de la constitution d'un front sunnite, avec un noyau dur autour du CCG, Conseil de coopération du Golfe, élargi à d'autres pays arabes comme l'Égypte, voire à des pays non arabes comme le Pakistan. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'au regard de la situation et de la menace Daesh ces derniers mois, qui n'avait pas donné lieu à la constitution d'un front sunnite, ce front sunnite finalement s'est cristallisé à l'occasion de l'affaire yéménite. Ce qui fait dire aux Iraniens, à tort ou à raison, qu'il s'agit d'un front anti-iranien, anti-chiite. Et donc on voit bien que le Yémen, en l'occurrence, est un abcès de fixation où se joue, se manifeste, s'exprime cette polarisation régionale qui n'était pas préexistante en interne au Yémen. Non pas qu'il n'y ait pas une identité chiite spécifique au Yémen, il y en a une, en l'occurrence effectivement les Zaydites, mais cette polarisation effectivement renvoie à un enjeu plus largement régional d'instrumentalisation de confessionnel, qui est en fait le jeu de deux puissances, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Et l'Iran. Alors je me tourne vers vous, Azad Dekian, qu'est-ce que l'on sait de la stratégie iranienne sur cette question ? Et là aussi, quand je parlais de piège pour l'Arabie Saoudite, c'est un piège tendu aussi à l'Iran ?
Oui, mais je pense que les Iraniens essayent d'éviter ce piège parce que pour le moment, ce qu'ils acceptent, c'est de soutenir les Zaydis, donc les Houthis yéménites. Mais en même temps, j'ai vu aussi l'acceptation du fait qu'il y aurait des conseillers des gardiens de la révolution au Yémen actuellement. Mais le soutien serait plutôt soutien politique. Et on voit que M. Zarif, après son retour de Lausanne, s'active en faisant des voyages dans la région. Il était au Pakistan pour à la fois le dossier donc qui concerne l'Iran et le Pakistan avec une frontière commune, en l'occurrence concernant le Baloutchistan. Récemment d'ailleurs, il y a des gardes frontières iraniens qui ont été tués par un groupe radical islamiste lié au Pakistan. Mais en même temps, pour essayer de raisonner visiblement les Pakistanais à ne pas intervenir sur le terrain yéménite. On sait que l'Arabie Saoudite a demandé au Pakistan d'intervenir, puisque pour le moment, ils bombardent les Saoudiens, mais ils n'ont pas d'armée sur le sol yéménite. Ça serait trop risqué, trop dangereux. Les Iraniens non plus n'ont pas d'armée. Et donc, maintenant, le discours des Iraniens, c'est il faut trouver une solution entre les yéménites, c'est-à-dire d'une part entre les sunnites qui dirigeaient Yémen et entre la Houthi et aussi Ali Abdullah Saleh qui était l'ancien président de Yémen qui a été déchu en 2011 suite à la révolte, d'ailleurs par la Houthi, et aujourd'hui de fait il est allié des Houthi, il ne faut pas oublier ça, donc il n'y a pas seulement chiites, sunnites, d'ailleurs les Zaydis ne sont pas réellement chiites ou imamites, ils sont, on le sait, beaucoup plus proches d'une école sunnite que de chiites ou imamites majoritaires en Iran et en Irak, par exemple. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les Iraniens ne veulent pas tomber dans ce piège, mais souhaitent un gouvernement de coalition au Yémen qui prendrait en son sein à la fois la Russie et donc les Zaïdis et aussi, bien sûr, les sunnites. Et donc, de ce fait, équilibrer les rapports de force. Je pense qu'ils jouent un jeu qui m'intéresse beaucoup dans la mesure où je pense que finalement, les Saoudiens n'arrivent pas, on le voit, à faire intervenir ni les Égyptiens, ni les autres alliés de l'Arabie Saoudite sur le sol yéménite. Et donc, je pense que le résultat serait que les Iraniens parviendront à dire, bon, on garde l'Irak et on vous laisse Yémen avec un gouvernement de coalition. Et je pense qu'on peut aussi s'attendre à ce type d'échange entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il ne faut pas oublier que M. Hashemi Rafsanjani, l'ancien président iranien, qui a des liens en Arabie Saoudite, a failli y aller très récemment pour essayer de relancer les relations Iran-Arabie. Il en a été empêché justement à cause de cette crise yéménite. Mais je pense que ça aussi, c'est une possibilité. De toute façon, le gouvernement Rouhani, président Rouhani, voudrait absolument renouer les relations avec l'Arabie Saoudite. Et il me semble que le roi Suleiman est aussi visiblement en faveur, pas à court terme, mais visiblement à moyen terme, par rapport à ce rapprochement-là, qui de toute façon sera réalisé s'il y a effectivement un accord définitif sur le nucléaire et donc un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis.
Donc beaucoup de choses qui bougent, on en reviendra sur cette question du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. En tout cas, et François Charest, je me tourne vers vous, ce qu'on voit à propos du Yémen, c'est une certaine forme finalement de temporisation des uns et des autres, avec le risque au début de l'opération saoudienne de voir finalement cette opération au Yémen peut-être embraser le Moyen-Orient. Et apparemment...
Je crois qu'il faudrait dire embraser un peu plus le Moyen-Orient, qui est aujourd'hui une région qui se porte particulièrement mal. Le Yémen constitue une espèce de piège pour tout le monde. Pour les Saoudiens, on l'a vu, qui prennent quand même des risques considérables en ce qui concerne leur propre stabilité politique intérieure. Et puis, pour les Iraniens, s'engager au Yémen, ça serait en quelque sorte étirer leur capacité militaire dans des conditions proches de l'intolérable. Les Iraniens sont engagés en Syrie. Les Iraniens sont engagés en Irak, les Iraniens sont toujours extrêmement présents, évidemment, au Liban. Ça finit par coûter très cher. Et donc, il est bien évident qu'il y a un intérêt iranien à calmer le jeu, à essayer de trouver une sorte d'équilibre dans la situation yéménite. Mais la situation yéménite, effectivement, dépasse très largement une polarisation sunnite-chiite. Dans la mesure où, par exemple, les rebelles, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas disposés à déposer les armes. L'intervention aérienne saoudienne a contribué à radicaliser sur le terrain et à faire passer des alliances étranges entre les rebelles zaïdistes et puis certaines tribus yéménites sunnites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'ancien président Saleh, son fils, qui n'est pas du tout non plus du même côté, on est dans un imbroglio qui effectivement devrait être résolu par une sorte de conférence internationale. Mmh. On voit très bien la configuration, on voit bien le président Erdogan qui va voir le guide suprême Khamenei, et d'un côté et de l'autre, on se rend compte qu'il y a, finalement, on va vers quelque chose qui serait une conférence internationale des puissances régionales pour arriver à un accord de manière à ce que personne ne risque trop gros dans cette affaire et donc, effectivement, calme le jeu. Ça prendra un certain temps.
Ça prendra du temps. Alors, David Rougoulet-Rose, par rapport à ce retour de l'Iran et cette ouverture qu'évoquait tout à l'heure Azadeh Khan, finalement, la perception traditionnelle de l'Arabie Saoudite, prudente, agissant en coulisses, etc., est-ce qu'elle est dépassée ?
En partie, oui, parce que là, c'est vrai que le choix de l'engagement yéménite est quand même un marqueur fort. Par ailleurs, pour ce qui est du souhait éventuel des Iraniens de parvenir à un apaisement de la situation, moi je serais un peu prudent quand même, parce qu'il y a des tensions au sein même du régime. C'est vrai que le gouvernement Rouhani serait plutôt partisan d'un apaisement, pour autant il y a un certain nombre de réseaux Pasdaran qui sont pas du tout favorables à cette ligne, et d'ailleurs c'est eux qui sont très actifs au Yémen. Et comme le disait François Géré, ça va prendre du temps parce que ils sont quand même allés très loin déjà. Pour ma part, je vois pas très bien dans l'immédiat court terme comment les choses vont pouvoir se stabiliser à peu près. D'autant plus que les Saoudiens sollicitent de manière de plus en plus importante à la fois les Égyptiens et les Pakistanais, qui freinent un petit peu parce qu'ils sentent bien qu'il y a un risque d'engrenage qui n'est pas négligeable. Et donc, la situation est quand même assez mauvaise. Comme le disait Monsieur Géré tout à l'heure, c'est quand même assez inquiétant au niveau régional. Il y a à la fois des lueurs d'espoir quand il y a une signature comme l'accord cadre, et en même temps, on sent bien que potentiellement, la région est engagée dans une guerre de 30 ans.
Moi, je pense que l'implication des gardiens de la révolution au Yémen est un peu exagérée, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conseillers militaires, mais les gardiens de la révolution à leur tête, Monsieur Soleimani, à l'heure actuelle en tout cas, soutiennent les efforts de sortie de l'Iran du banc de la communauté internationale. Ils ont tout à gagner d'ailleurs, et ils peuvent pas être partout non plus. Yémen n'est pas un site primordial pour l'Iran. Pour l'Iran, le site primordial, c'est l'Irak et la Syrie, bien sûr, hein, puisque c'est la porte d'entrée de l'Iran vers la Méditerranée, et le Hezbollah libanais. Et donc, s'ils jouent au Yémen, c'est aussi pour maintenir leur force, leur pouvoir ailleurs, en particulier pour ce qui concerne cette région-là, l'Irak. Et donc, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Il me semble que le guide a très bien reçu Erdogan, donc le président turc, qui était là justement pour dire trouvons une solution à la crise yéménite, suite à quoi Zarif est allé aussi au Pakistan. Donc, ce qui émerge effectivement, c'est arrêt immédiat des bombardements de la coalition, en particulier l'Arabie Saoudite sur Yémen, et trouver une solution, encore une fois, pour un gouvernement de coalition. Je pense pas que l'Iran a intérêt, et je pense que même les Pasdaran, ni M. Soleimani, le chef des Al-Rods, ont intérêt à s'enliser davantage sur le sol yéménite, qui ne constitue pas un enjeu principal pour l'Iran.
Ni à s'enliser, ni à générer une escalade, ni pour l'Iran, ni pour l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Azadekian?
Alors, il faut un petit peu peut-être remonter à la source, c'est-à-dire en tout cas à la révolution de 79 qui a abouti à des relations exécrables entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans un premier temps, au début de la révolution, les Iraniens tentaient d'exporter leur révolution partout dans la région, y compris auprès des chiites. Il y a une forte minorité chiite en Arabie Saoudite, notamment dans les régions pétrolières, et donc ça a beaucoup inquiété, bien évidemment, les Saoudiens. Puis pendant le deuxième mandat de président Rafsanjani, c'est-à-dire à partir des années 1994-15, on voit un rapprochement très lent entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, notamment, encore une fois, grâce à Rafsanjani, et rapprochement sous Khatami. De 97 jusqu'en 2003-04, on voit le réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais ces relations sont de nouveau détériorées sous Ahmadinejad, l'ancien président, etc. Donc, il y a eu vraiment énormément de tensions entre les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit de deux puissances régionales, et les Saoudiens contestaient le retour et contestent encore aujourd'hui le retour de l'Iran sur la scène régionale, et les Iraniens, à travers leur intervention un peu partout, essayaient par tous les moyens d'asseoir leur autorité dans la région. Comme je viens de dire, il y a eu une tentative de réchauffement de la part des Iraniens, mais pour le moment ça n'a pas encore été le cas du fait de la crise yéménite. Je pense qu'à terme, telles que les choses sont parties, on va quand même vers une conférence sur le Yémen à laquelle participera définitivement l'Iran, et c'est l'occasion aussi pour essayer d'aller vers une normalisation.
François Géré.
La situation actuelle ne donne pas le sentiment effectivement d'un apaisement rapide. Si on regarde à l'heure actuelle l'intensification des livraisons d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, on constate d'abord donc qu'il y a une militarisation croissante du conflit, et deuxièmement qu'il n'y a pas de corrélation entre l'accord nucléaire d'une part et les affaires régionales, du moins pour le moment.
En est-on sûr ?
Est-ce que d'ici, dans 3 mois, quand cet accord nucléaire sera vraiment confirmé, assis, mis en œuvre, on passera pas à des discussions sur la Syrie, sur l'Irak, sur la lutte contre Daesh et les coopérations? Et pour le moment, on n'en est pas là. Et l'affaire yéménite vient au contraire envenimer la perspective d'avoir une coopération, disons, américano-iranienne sur des dossiers sur lesquels, pour le moment, les positions sont totalement incompatibles, notamment en ce qui concerne la Syrie.
Alors, j'ai cette question, François Géré. Est-ce que précisément la question du Yémen et l'intervention saoudienne au Yémen n'est pas la preuve que corrélation il y a entre la situation régionale et le nucléaire iranien?
Ben, franchement, je vois les deux diplomaties s'orienter dans des directions qui sont franchement pas convergentes. C'est vrai pour le Yémen. C'est vrai également si on constate ce qui s'est passé très récemment en Irak avec la libération de Tikrit, où on constate que les Américains font une espèce de valse hésitation sur « je soutiens pas les milices chiites, pas les milices chiites, les forces de sécurité irakiennes, mais je les soutiens pas assez, donc on n'arrive pas à reprendre Tikrit facilement, etc. etc. » Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'action efficace contre Daesh en Irak s'il n'y a pas un minimum de coopération avec les Iraniens. Et pour le moment, accord nucléaire à Lausanne ou pas, cette situation et les points de vue politiques sont tellement éloignés les uns des autres qu'on ne voit pas se dessiner une véritable coopération, sauf sur des points un petit peu tactiques qui consistent à ouvrir les radars pendant quelques heures afin de permettre aux uns et aux autres de faire leurs opérations aériennes.
David Rigolaros.
Oui, pour justement aller tout à fait dans le même sens. D'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que la position du guide par rapport d'une part à l'affaire de négociation qui était laissée à la présidence Rouhani et à l'équipe Zarif, et par rapport aux affaires régionales laissées à Soleimani, justement, au Pas d'Aran, il y avait dissociation des deux. Mmh. Et qui était dissociation explicite. C'est-à-dire que le guide de la République islamique avait dit à Rouhani, vous vous occupez de ça, hein, vous mêlez pas des autres affaires, c'est-à-dire Syrie, Yémen, etc. Ça relève du monopole d'Al-Quds. Et donc c'était très clair, ce qui explique d'ailleurs ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire cette espèce de dissociation curieuse en apparence, qui est contradictoire, parce que tout n'est pas résolu, toutes les hypothèques ne sont pas levées. Alors effectivement, dans le cas où il y aurait finalisation complète d'un accord, on peut penser que les choses évolueraient, certainement, mais pour l'instant c'est pas le cas.
Oui, juste un point là-dessus,
parce que c'est important,
Soleimani, tout d'un coup, devient visible, devient une figure médiatique. Alors que jusqu'à présent, les Iraniens étaient profil bas.
Justement, une raison de plus.
On les voyait pas se déclarer. Que... Et là, maintenant, on a une espèce de chef de guerre qui devient populaire et qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que ça signifie comme changement ? Effectivement, une répartition des rôles.
Azadegian, très temps, rapidement.
Ce qui montre que M. Soleimani, qui est devenu effectivement suffisamment populaire, et est-ce que c'est aussi, n'est-ce pas, une politisation d'une personnalité militaire, justement. Moi, ça me laisse entendre qu'on va vers plutôt une volonté de la part de l'Iran de contribuer à amoindrir, en tout cas, les tensions existantes dans la région, plutôt que de dire que le dossier de Liban, de l'Irak ou encore de Yémen resteront définitivement aux mains de l'armée Al-Quds. D'ailleurs, le soutien de chef des Pastaran, M. Jafari, pour les négociateurs de nucléaire et l'ensemble des gardiens de la révolution montre qu'il y a cette volonté de soutenir le gouvernement de Rouhani. Et donc, ça aura des implications importantes aussi sur un certain nombre de dossiers. C'est quand même M. Zarif qui voyage actuellement dans les pays de la région, c'est pas Soleimani.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Azadegian, professeur de sociologie politique à l'Université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS. François Géré, président fondateur de l'IFAS, l'Institut français d'analyse d'analyse stratégique et d'avis de Rigoulet-Roz, chercheur attaché à l'IFAS et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux enjeux liés à l'eau, on parlait du Yémen, dans le cadre du Forum mondial de l'eau qui s'ouvre en Corée du Sud. À demain.